7h30, c'est le journal de Paul Sertillange. Bonjour Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Les combats s'intensifient en Ukraine, mais la capitale Kiev échappe toujours à une attaque au sol. Le convoi de l'armée russe est bloqué depuis 3 jours au nord de la ville, bloqué par une rivière, mais aussi à cause de problèmes logistiques. Les détails dans un instant avec l'un de nos envoyés spéciaux. Résister à Kiev, c'est prendre les armes, c'est aussi donner son sang et les donneurs affluent. Reportage sur place à suivre. La solidarité depuis la France, des chauffeurs routiers ukrainiens retournent au pays avec de la nourriture, des médicaments. Vous entendrez l'un d'entre eux, un témoignage parmi d'autres aujourd'hui, journée spéciale et solidaire avec les Ukrainiens sur France Inter. Dans ce journal également, quel candidat à la présidentielle agite le plus les réseaux sociaux? Les détails avec le baromètre de France Inter et Visibrain.
Et au micro d'Alexandra Benseïd, dans 20 minutes à 7h50, deux députés La République En Marche, Caroline Janvier et Valéria Formuntian, présidente des deux groupes d'amitié France-Russie et France-Ukraine à l'Assemblée nationale.
France Inter.
Au nord de Kiev, l'immense convoi de l'armée russe n'avance plus.
Une colonne de véhicules longue de 60 km, une offensive majeure sur la capitale semble se préparer. Mais les Russes sont bloqués par les combats, mais aussi à cause d'une logistique totalement inefficace. Les détails avec l'un de nos envoyés spéciaux, Eric Biegala.
Le convoi russe ne bouge plus depuis 3 jours. En fait, le convoi, il s'agit plutôt d'une accumulation de véhicules venus sur Kiev par la route la plus courte et arrêtée par un obstacle naturel, la rivière Teteriv, dont les ponts ont été coupés. Il semble aussi que le convoi soit arrêté du fait d'un manque criant d'essence et de ravitaillement. Une légèreté logistique qu'on retrouve sur d'autres colonnes. Des blindés venus de l'Est, par exemple, se sont retrouvés en panne d'essence sur l'autoroute de Kiev. Nombre d'unités russes sont arrivées dans le pays avec dans leur pactage 3 jours de ration, pas plus. Résultat, on commence à voir des soldats russes s'en prendre à des épiceries, faisant main basse sur toutes les victuailles et bouteilles d'eau qu'ils peuvent emporter. Encore plus étrange, nombre d'unités, y compris des unités dites d'élite, comme celles qui ont tenté ce dimanche d'investir la ville de Kharkiv, ne communiquent entre elles qu'avec des talkie-walkie civils, donc parfaitement audibles par tout le monde. Et la petite communauté des radioamateurs s'est d'ailleurs jetée sur l'aubaine, collectant du renseignement à l'appel, et parfois même s'autorisant un brouillage en règle des communications de l'armée russe en pleine bataille. Visiblement, les forces de Vladimir Poutine n'étaient absolument pas prêtes au combat en Ukraine. Au Boukiv, au sud de Kiev, Eric Biegala, France Inter.
Les habitants de la capitale se préparent à l'offensive et ceux qu'ils peuvent aident chacun à leur manière. Certains prennent les armes, d'autres, en prévision des blessés à venir, se ruent pour donner leur sang. Reportage dans un centre de dons à Kiev, Vanessa Dicouro et Marc Garvenès.
Dans un quartier résidentiel, le bâtiment est gardé par des volontaires armés. Le hall d'entrée accueille les donneurs dans une température surchauffée qui contraste avec l'humidité neigeuse et glaciale de dehors. Alex n'en est pas à son premier don du sang.
J'ai vu un message d'un collègue et j'ai vu que mon groupe sanguin était vraiment recherché. Je suis AB négatif. Chacun fait ce qu'il peut faire.
Dans les médias, radio ou télé, des messages sont régulièrement passés pour inciter aux dons. Victoria Batchouk est la directrice de ce centre de quartier. Elle a assisté à cet élan spontané.
Le premier jour, nous avions 500 donneurs, le deuxième, plus de 600 personnes. C'est 3 fois plus qu'en temps normal. On a désormais assez de stock, on n'a plus de pénurie. Donc on commence à dire aux gens de retourner à la maison et de revenir plus tard.
Après la collecte, une autre étape commence pour le personnel de ce centre, faire parvenir les poches de sang dans les hôpitaux, de nuit, avec tous les risques que cela implique.
Kiev, où les bombardements se sont multipliés hier, mais aujourd'hui, la Russie semble concentrer son offensive sur Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. Des troupes aéroportées russes ont débarqué, annonce ce matin l'armée ukrainienne. Des combats sont en cours, un hôpital aurait été attaqué. Alors que la guerre s'intensifie, la diaspora ukrainienne continue à se mobiliser au quotidien depuis la France pour aider par tous les moyens possibles leurs proches sur place. Il y a notamment ceux habitués à faire le trajet, les chauffeurs routiers ukrainien. Au métro Chevaleret à Paris, plusieurs d'entre eux ont récupéré des produits de première nécessité pour les ramener au pays. Parmi eux, Stéphane, rencontré par Juliette Jay juste avant son départ pour l'Ukraine.
Un bonnet sur le crâne, Stéphane, 55 ans, navigue entre les colis, prêt à partir pour l'Ukraine. Depuis 8 heures ce matin, le chauffeur réceptionne, scotche et charge la soute de son bus.
Je suis à la retraite. Avant, je travaillais au ministère de l'Intérieur ukrainien. Mais aujourd'hui, je travaille dans ce bus, car la Russie nous a attaqué, la Russie poutinienne, et on se défend de toutes les manières possibles.
Veste en cuir sur le dos, il nous fait visiter le bus dans lequel il va passer les 20 prochaines heures sans dormir.
C'est mon lieu de travail, là où je conduis. Mon collègue s'assoit ici, à côté. On n'a pas le droit de dormir, donc il écoute de la musique. Il se repose et après on échange.
À l'arrivée en Ukraine, d'autres volontaires réceptionneront les colis et trieront les biens pour les civils et ceux pour l'armée. Les beaux-frères et les gendres de Stéphane ont pris les armes en Ukraine. Et pour lui, c'était un devoir de participer à l'acheminement de l'aide humanitaire.
Pour moi, c'est une obligation d'être là pour aider et pour montrer que ce qui se passe en Ukraine et ce que fait Poutine, ce n'est pas que contre l'Ukraine. Il a déclaré la guerre à tout le monde européen civilisé.
18h sonne alors que le ciel s'assombrit, Stéphane grimpe dans le véhicule, direction l'Est. Il se dit prêt à continuer ses allers-retours entre Paris et l'Ukraine tant que la guerre durera et tant que sa santé le permettra.
Ceux qui viennent en aide aux Ukrainiens, vous entendrez leur témoignage aujourd'hui, journée spéciale avec les Ukrainiens sur France Inter. Face à la guerre, l'Occident n'attaque pas mais sanctionne toujours plus. L'espace aérien des États-Unis est désormais interdit aux avions russes. Le président américain Joe Biden a pris la parole il y a quelques heures devant le Congrès américain, qualifiant Poutine de dictateur plus isolé que jamais. Biden a aussi menacé les oligarques russes de saisir leurs yachts, appartements de luxe et jets privés. D'Ukraine, les réfugiés toujours plus nombreux affluent vers l'Union européenne. Près de 700 000 civils ont déjà fui le pays selon les Nations Unies. L'ONU qui lance un appel humanitaire mondial et demande en urgence 1,7 milliard de dollars. On y revient dans le journal de 8 heures. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe à travers les sanctions économiques occidentales. Déclaration hier du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Le ministre du commerce extérieur, Franck Riester, promet que l'État accompagnera les entreprises françaises frappées par les conséquences de ce conflit. Mais ces conséquences se font déjà sentir pour certaines d'entre elles, en raison notamment de la hausse du prix du gaz, du pétrole importé de Russie, ou encore de la pénurie de certaines matières premières. C'est le cas par exemple de la PME Peinture et Encre Poitevine, basée dans l'Allier. Mariam El-Kurdi a interrogé son dirigeant.
L'entreprise de Frédéric Jolivet fabrique et vend de l'encre destinée aux journaux, magazines, emballages. Principal client, l'Asie. Pour cela, il lui faut des dérivés du pétrole qui proviennent principalement de Russie. La hausse des cours a des effets très directs pour sa PME.
Nous, on est impacté au niveau du transport par le coût du carburant qui ne cesse de monter. Nous achetons des molécules qui sont dérivées de produits pétroliers. Donc, ça veut dire que nous achetons nos matières premières beaucoup plus chères. Et à un moment donné, je vais plus pouvoir être compétitif quand je vais revendre.
Car quand les prix des matières premières augmentent, le prix de vente flambe.
Moi, j'ai des coûts de production qui explosent. Et donc, un produit que je vendais produit fini il y a 2 ans à un client que je vendais 6,50 €, on est à 11,40 € aujourd'hui. Et à un moment donné, ils vont dire non. Moi, je vais fermer.
Situation d'autant plus compliquée qu'il pensait sortir des difficultés liées à la crise sanitaire.
On s'est sorti de 3 confinements et d'une pandémie qui n'en finit pas. On croyait qu'on allait survivre et puis voilà. Donc, on ne pourra pas sauver tout le monde. Et je pense que au point où nous en sommes, on est tous à croiser les doigts et on ne peut faire que ça.
Croiser les doigts, espérer, bénéficier du plan de résilience promis par Jean Castex pour aider les entreprises à encaisser les impacts économiques des sanctions contre la Russie.
Mariam El-Kurdi, une des conséquences indirectes de la guerre en Ukraine, en France, c'est la grande visibilité donnée à Emmanuel Macron par rapport au candidat à la présidentielle. Et cela se vérifie sur les réseaux sociaux. D'après le baromètre France Inter Visibrain, chaque mois, ce baromètre prend la température de la campagne en scrutant Facebook, Twitter, Instagram notamment. Et en février, Emmanuel Macron occupe le terrain, Noé Miller.
Ces 4 dernières semaines, Emmanuel Macron a été cité dans près de 7 millions de publications sur les réseaux sociaux. À lui seul, le président représente 30% des messages liés à la présidentielle et aux candidats. Clémence Hutinet, responsable des relations presse chez Visibrain.
Il y a plusieurs raisons à ça. Donc d'abord, sa fonction de chef de l'État, mais aussi la présidence du Conseil de l'Union européenne qui a été très commentée plus fin janvier, début février. Et maintenant, ce sont les récents événements entre l'Ukraine et la Russie.
Résultat, il gagne plus de 100 000 abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram en un mois. Et si Emmanuel Macron n'a pas lancé sa campagne, ses soutiens l'ont fait pour lui. Porte à porte, site internet, affiche, une mobilisation qui commence à prendre sur les réseaux sociaux.
Jusqu'à présent, les mouvements de soutien autour d'Emmanuel Macron était plutôt timide. Mais ce mois-ci, on note que le nombre de messages publiés avec des hashtags de soutien, comme par exemple hashtag 5 ans de plus ou hashtag avec vous, double ce mois-ci.
Deux autres candidats continuent d'agiter les réseaux sociaux. Éric Zemmour avec ses meetings, ses opérations communication et ses très nombreuses interventions médiatiques. Et Jean-Luc Mélenchon qui continue de faire grossir sa communauté numérique.
Un baromètre à retrouver en chiffres et en infographie sur franceinter.fr.
Deux semaines après son succès aux Jeux Olympiques, le skieur Clément Noël a été célébré hier soir en Savoie.
Le champion olympique de slalom à Pékin est venu présenter sa médaille d'or dans sa station d'accueil Val d'Isère. Et il y avait du monde pour l'accueillir, Nicolas Perronnet.
Descente au flambeau sur la face de Bellevarde sous les feux d'artifice et entouré des moniteurs de la station, l'entrée est soignée.
Le champion olympique de slalom Pékin 2022, devant nous Clément.
C'est à ski, médaille d'or autour du cou, que Clément Noël se présente devant la foule de touristes et de passionnés.
C'est magique d'être proche de lui comme ça, il est rentré très fort.
C'est la classe quoi, il est super stylé donc c'est quand même fantastique. Résister à la pression comme ça et faire la manche de sa vie, c'est quand même un truc de dingue.
Fan numéro 1, chasseur d'autographes, les enfants, des étoiles dans les yeux comme Oscar.
J'adore, ça fait 4 ans que je suis sur toutes ces courses alors c'est super, je trouve que c'est un vrai champion.
Et Clément Noël savoure et se revoit aussi dans tous ces jeunes du club des sports.
Fier parce qu'on a été aussi un jeune pareil dans un club qui regardait le ski à la télé, donc c'est cool de pouvoir les voir et partager avec eux quoi.
Avec cette nouvelle notoriété qui n'a pas échappé à la légende du ski alpin et de Val d'Isère, Jean-Claude Killy à ses côtés hier soir sur le podium.
On a un nouvel ambassadeur formidable me semble-t-il. Je crois qu'on a de la chance parce que le ski en tant que sport aujourd'hui est plutôt difficile à vendre. Donc d'avoir Clément en première ligne, c'est magnifique.
54 ans après, la passation de pouvoir semble assurée dans la station savoyarde.
Reportage Nicolas Perronnet de France Bleu Pays de Savoie.
Paul Sertillange pour ce journal. L'édito politique est à suivre.